De la fluidité des identités et du danger des catégories figées. De façon générale, une différence essentielle entre les États-Unis et la France, et plus généralement l'Europe, tient au fait que les clivages ethno-religieux français se caractérisent par une plus grande fluidité que les clivages raciaux états-uniens. D'après l'enquête « Trajectoire et origine » menée en France en 2008-2009, on constate par exemple que plus de 30% des personnes qui ont un parent d'origine nord-africaine sont issues d'un couple mixte, au sens où l'autre parent n'a pas d'origine étrangère. À partir du moment où les processus d'intermariage atteignent des niveaux de ce type, on voit que la notion même d'identité ethnique doit être envisagée de façon extrêmement souple. Les origines et les identités se mélangent en permanence, comme le montre par exemple le très rapide renouvellement des prénoms au travers des générations. Cela n'aurait pas beaucoup de sens de demander aux personnes en question de se déclarer comme faisant partie de façon pleine et entière de telle ou telle catégorie ethnique. Cela explique d'ailleurs pourquoi il existe un assez large consensus en France et dans une certaine mesure en Europe, même si nous allons voir plus loin que le Royaume-Uni est dans une situation intermédiaire, pour considérer qu'il ne serait pas adapté de demander aux uns et aux autres de désigner la catégorie ethnique à laquelle ils s'identifient. Une telle injonction d'assignation identitaire serait de fait d'une grande violence vis-à-vis de toutes les personnes qui considèrent que leurs origines et leur identité sont mélangées et multidimensionnelles et qui aspirent simplement à mener leur vie et non à montrer en permanence leurs papiers et déclarer leur appartenance ethnique. Cela n'empêche pas par ailleurs de poser dans diverses enquêtes non obligatoires des questions sur les origines et les lieux de naissance des parents ou grands-parents, ou encore sur les croyances religieuses, philosophiques et politiques des uns et des autres. Mais il s'agit clairement d'une opération très différente de celle consistant à demander de désigner dans un recensement ou dans des processus administratifs obligatoires une ou plusieurs catégories de type ethno-racial. Aux États-Unis, le processus d'assignation identitaire a des origines historiques très différentes. À l'âge esclavagiste et jusqu'au début du XXe siècle, les agents recenseurs assignent une identité noire aux esclaves et à leurs descendants, et la règle générale est la « one drop rule ». Dès lors qu'un seul ancêtre est noir, aussi lointain soit-il, la personne est considérée comme noire. Jusqu'aux années 1960, de nombreux États sudistes interdisent les unions entre races différentes. Depuis 1967, à la suite d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, les États ne peuvent plus interdire les unions interraciales. L'intermariage a fortement progressé, y compris pour les Noirs, avec plus de 15% d'unions mixtes parmi les personnes s'autodéclarant comme Noires dans les années 2010, contre à peine 2% en 1967. Il reste que l'obligation de déclaration de l'identité ethno-raciale aux États-Unis, dans les recensements comme dans les enquêtes, contribue probablement à un durcissement des frontières entre groupes, alors même que la réalité des identités est le plus souvent beaucoup moins tranchée. Malgré ces différences importantes entre les contextes nationaux, les questions identitaires nourrissent actuellement des exploitations politiques et des clivages électoraux d'une ampleur comparable aux États-Unis et en France, et plus généralement en Europe, comme nous le verrons plus loin. Les préjugés et stéréotypes culturels utilisés ne sont pas exactement semblables dans les deux cas, même s'il existe des points communs évidents. Aux États-Unis, les références aux « welfare queens » visent à stigmatiser l'oisiveté présumée des mères célibataires noires, aussi bien que l'absence des pères. En France, les discours racistes attribuent volontiers aux personnes d'origine maghrébine ou africaine une propension naturelle et irrépressible qui les pousserait vers la délinquance et la prison. Les soupçons de recours abusifs aux transferts sociaux ainsi que les références plus désobligeantes encore à d'autres attributs associés aux immigrés, comme le bruit et l'odeur, sont également monnaie courante, y compris parmi des responsables politiques positionnés officiellement au centre droit et non à l'extrême droite. Face à ce type de discours, plusieurs types de réponses sont nécessaires. Il existe tout d'abord de nombreux travaux montrant que les soupçons visant à insinuer que les immigrés ou les minorités lesteraient les finances publiques de leurs abus ne reposent sur rien. À l'inverse, de multiples recherches ont établi les discriminations professionnelles dont font l'objet les personnes issues de l'immigration extra-européenne et de minorités, et qui compliquent considérablement l'accès à l'emploi pour un même diplôme initial. Même s'ils ne suffiront sans doute jamais pour emporter l'adhésion de tous, ces travaux peuvent et doivent être mieux mobilisés et diffusés dans le débat public. Par exemple, il paraît raisonnable d'établir un lien entre les discriminations professionnelles dont font l'objet certains groupes minoritaires sur le marché du travail légal et leur plus forte participation à des activités lucratives illicites, comme le trafic de drogue dans certains cas. En tout état de cause, cela paraît plus raisonnable que de leur attribuer une propension éternelle et innée à la criminalité. Il est probable, malheureusement, que cela ne suffira jamais pour emporter la conviction de ceux qui ne veulent pas être convaincus et surtout de tous ceux qui tirent un bénéfice moral ou matériel de leurs croyances culturalistes, essentialistes ou franchement racistes. Il est clair, j'insiste sur ce point, que le durcissement des conflits identitaires se nourrit également du sentiment de désillusion et de fatalisme face à toute possibilité d'une économie juste et d'une véritable justice sociale. Nous avons vu par exemple dans le chapitre précédent que l'électorat français était divisé en quatre quarts de taille presque exactement égale autour de deux questions, l'immigration et la redistribution riche-pauvre. Si l'on ferme toute perspective d'action, voire parfois de débats, au sujet de la redistribution et de la justice sociale, par exemple en expliquant que les lois de la mondialisation et de l'économie empêchent rigoureusement et éternellement toute redistribution véritable, alors il est presque inévitable que le conflit politique se concentre sur le seul terrain d'action qu'on laisse aux États, à savoir le contrôle de leurs frontières et parfois l'invention de frontières intérieures. Autrement dit, la montée des clivages identitaires ne doit pas être vue comme la conséquence, certes regrettable, mais au final inévitable, de l'entrée dans le monde postcolonial. Il me semble qu'on peut aussi et surtout voir cette évolution comme la conséquence de la chute du communisme, de la montée du fatalisme identitaire et de la perte de tout espoir de transformation socio-économique fondamentale. Seule une réouverture du débat sur la justice et le modèle économique peut permettre à la question de la propriété et de l'inégalité de reprendre le dessus sur celle de la frontière et de l'identité. Nous y reviendrons. Le Parti démocrate, la gauche brahmane et la question raciale. Venons-en maintenant à une question particulièrement importante et complexe. Dans le contexte des États-Unis, il pourrait être tentant d'expliquer la brahmanisation du Parti démocrate par la montée en puissance des clivages raciaux et identitaires depuis les années 1960. Autrement dit, les classes populaires blanches auraient progressivement quitté le Parti démocrate parce qu'elles n'auraient pas accepté que ce dernier prenne fait et cause pour les Noirs. Selon cette théorie, il serait au final presque impossible pour les classes populaires blanches et noires de figurer durablement dans la même coalition politique aux États-Unis. Tant que le Parti démocrate était ouvertement raciste et ségrégationniste, ou tout du moins tant que les désaccords à ce sujet entre démocrates sudistes et nordistes étaient tus, c'est-à-dire grosso modo jusqu'aux années 1950-1960, alors il était possible de rassembler les classes populaires blanches et noires. Mais dès lors qu'il cessa d'être anti-noir, alors il était presque inévitable qu'il perde les classes populaires blanches, aimantées par le Parti républicain, qui lui-même ne pouvait faire autrement que de reprendre le créneau raciste laissé vacant par les démocrates. La seule exception à cette loi d'airain de la politique états-unienne serait finalement la courte parenthèse de la période 1930-1960, où la coalition rooseveltienne parvint tant bien que mal à faire tenir les classes populaires blanches et noires dans un même parti, au prix de contorsions délicates et d'un équilibre précaire dans le cadre de circonstances exceptionnelles, la crise des années 1930, la Seconde Guerre mondiale. Cette théorie me semble excessivement déterministe et au final peu convaincante. Le problème n'est pas seulement que cette hypothèse repose sur une vision essentialiste et statique du racisme des classes populaires, qui, comme nous l'avons déjà noté dans le cas de la France, n'est pas plus naturel ou éternel que celui des classes moyennes, des travailleurs indépendants ou des élites. Ce qui rend cette théorie peu convaincante, c'est aussi et surtout qu'elle ne permet pas de rendre compte de l'ensemble des faits observés. Tout d'abord, s'il est incontestable que les questions raciales ont joué un rôle essentiel dans la fuite d'une partie des électeurs blancs sudistes du Parti démocrate à partir de 1963-1964, le point important est que le retournement du clivage éducatif observé depuis les années 1950-1960 est un phénomène que l'on retrouve au niveau de l'ensemble des États-Unis, aussi bien au nord qu'au sud, indépendamment des attitudes sur les questions raciales. Il s'agit également d'une évolution qui se déroule de façon continue et graduelle depuis les années 1950-1960 jusqu'aux années 2000-2020. Il paraît difficile d'expliquer une évolution aussi longue et structurelle en évoquant le changement de positionnement du Parti démocrate, qui s'est fait de façon très rapide au cours des années 1960, et dont les effets sur le vote noir et sur le différentiel entre le vote des minorités et le vote blanc ont d'ailleurs été immédiats. Enfin et surtout, le point essentiel est que ce retournement du clivage éducatif se retrouve également en France, avec une ampleur et une périodisation presque identiques aux États-Unis. Nous allons également retrouver cette même tendance lourde au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et dans la quasi-totalité des démocraties électorales occidentales. Or, ces pays n'ont aucunement connu le mouvement des droits civiques, et le retournement complet du positionnement racial du Parti démocrate dans les années 1960. On pourrait certes évoquer le rôle joué par la montée en puissance du clivage migratoire et identitaire en France, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. Mais ce clivage ne commence à jouer un rôle central que de façon beaucoup plus tardive, à partir des années 1980 et 1990, et ne permet pas de comprendre pourquoi le retournement du clivage éducatif commence beaucoup plus tôt, dès les années 1960. Enfin, nous verrons que l'on retrouve ce même retournement dans des pays où le clivage migratoire n'a jamais joué de rôle central. Il me semble donc plus prometteur de chercher des explications plus directes. Si le Parti démocrate est devenu le parti des plus diplômés et que les personnes les moins diplômées ont fui le vote démocrate, cela doit être parce que ces dernières ont l'impression que les politiques portées par ce parti correspondaient de moins en moins à leurs aspirations. En outre, si une telle impression se prolonge pendant un demi-siècle et se retrouve dans de si nombreux pays, il ne peut pas s'agir d'un simple malentendu. Il me semble que l'explication la plus probable est celle que j'ai commencé à développer dans le cas de la France. Pour résumer, le Parti démocrate, de même que les partis de la gauche électorale en France, a cessé de s'intéresser prioritairement aux groupes sociaux les plus défavorisés et s'est consacré de plus en plus prioritairement aux gagnants de la compétition éducative et universitaire. Au début du XXe siècle et jusqu'aux années 1950-1960, le Parti démocrate avait une ambition égalitaire forte pour les États-Unis, non seulement sur le plan fiscal, mais également sur celui du système éducatif. En particulier, l'objectif était d'assurer que la totalité d'une classe d'âge accède non seulement à l'éducation primaire, mais également à l'enseignement secondaire. Sur ce terrain, comme sur l'ensemble des questions sociales et économiques, les démocrates apparaissaient clairement comme moins élitistes et plus soucieux des classes populaires et au final de la prospérité du pays que les républicains. Or, c'est cette perception qui s'est totalement transformée entre les années 1950-1970 et 1990-2010. Le Parti démocrate est devenu le parti des plus diplômés au sein d'un système universitaire hautement stratifié et inégalitaire, où les classes populaires n'ont quasiment aucune chance d'entrer dans les meilleures filières. Dans une telle situation, et en l'absence de réformes structurelles de ce système, il n'est pas anormal que les catégories les plus modestes se sentent délaissées par les démocrates. L'habileté des républicains à exploiter les questions raciales et surtout à jouer de la peur du déclassement du pays explique certes en partie leurs succès électoraux. Quand McGovern propose en 1972 la création d'un système fédéral de revenu minimum, financé par une nouvelle augmentation de la progressivité de l'impôt successoral, il est en partie victime des préjugés raciaux face à ce qui est dénoncé à demi-mot par les républicains nixoniens comme un nouveau transfert social aux Afro-Américains. De même, le refus de payer pour les minorités fait incontestablement partie des raisons expliquant une part de l'hostilité au programme de santé Obamacare adopté en 2010. De façon plus générale, le poids du facteur racial a souvent été cité, avec raison, parmi les causes structurelles expliquant la plus faible solidarité sociale et fiscale et l'absence d'un welfare state aux États-Unis d'ampleur comparable à son équivalent en Europe. Mais tout réduire à ce facteur racial serait erroné, et en particulier ne permet pas de comprendre pourquoi le retournement du clivage éducatif s'est produit quasiment de la même façon des deux côtés de l'Atlantique. Si les démocrates sont maintenant perçus comme étant davantage au service des plus diplômés que des classes populaires, c'est aussi et surtout parce qu'ils n'ont pas suffisamment renouvelé leur programme et leurs pratiques depuis la révolution conservatrice des années 1980. Occasion manquée et bifurcation inachevée, de Reagan à Sanders. Lors de l'élection de 1980, Reagan a réussi à imposer un nouveau narratif aux États-Unis sur leur propre histoire. Dans un pays en proie au doute après la guerre du Vietnam, le Watergate, la révolution en Iran, Reagan promet le retour de la grandeur du pays et propose pour cela un programme simple, la baisse du poids de l'État fédéral et le démantèlement de l'impôt progressif. Autrement dit, c'est le New Deal et son cortège de taxes spoliatrices et de mesures socialisantes qui ont ramolli les entrepreneurs anglo-saxons et qui expliquent le rattrapage du pays par les vaincus de la guerre. Reagan avait déjà rodé ce discours pendant la campagne Goldwater de 1964, ainsi qu'en 1966, lors des élections pour le poste de gouverneur de Californie, où il avait longuement expliqué que le « Golden State » devrait cesser d'être la capitale mondiale de la sécurité sociale, the welfare capital of the world, et qu'aucun pays au monde n'avait jamais survécu avec un tiers de son produit intérieur brut en prélèvements obligatoires. En 1980 et en 1984, dans un pays obnubilé par la peur du déclin, la guerre froide et la forte croissance du Japon, de l'Allemagne et du reste de l'Europe, Reagan parvient à faire triompher ce discours au niveau fédéral. Le taux supérieur de l'impôt fédéral sur le revenu, qui avait été en moyenne de 81% de 1932 à 1980, tombe à 28% à l'issue de la réforme fiscale de 1986, qui est la réforme emblématique et fondatrice du réganisme. Avec le recul dont nous disposons en 2019, les effets de ces politiques apparaissent relativement douteux. La croissance du revenu national par habitant a été divisée par deux au cours des trois décennies qui ont suivi ces réformes, par comparaison aux trois ou quatre décennies qui les avaient précédées. S'agissant de politiques qui étaient destinées à booster la productivité et la croissance, ce n'est pas très satisfaisant. Par ailleurs, les inégalités ont explosé à tel point que les 50% des revenus les plus bas n'ont connu aucune croissance depuis le début des années 1980. Ce qui est totalement inédit dans l'histoire des États-Unis et relativement peu commun pour un pays partant de paix. Pourtant, les administrations démocrates qui ont fait suite à la décennie reaganienne, c'est-à-dire les présidences Clinton 1992-2000 et Obama 2008-2016, n'ont jamais véritablement tenté d'inverser le narratif et les politiques issues des années 1980. En particulier sur le démantèlement de l'impôt progressif sur le revenu, dont le taux supérieur est passé à 39% en moyenne entre 1980 et 2018, soit un niveau plus de deux fois plus bas qu'entre 1932 et 1980, comme sur la désindexation du salaire minimum fédéral, avec à la clé des pertes nettes de pouvoir d'achat depuis 1980. Les administrations Clinton et Obama n'ont fait au fond que valider et pérenniser les orientations fondamentales prises sous Reagan. Cela peut s'expliquer parce que ces administrations étaient en partie convaincues par le narratif reaganien, faute par exemple du recul dont nous disposons aujourd'hui. On peut cependant penser que cette acceptation du nouveau cours fiscal et social s'explique en partie par les transformations de l'électorat démocrate et par un choix politique et stratégique visant à s'appuyer de plus en plus sur ce nouvel électorat très diplômé et qui pouvait trouver des avantages à cette nouvelle donne politique peu redistributive. Autrement dit, la gauche brahmane, qu'était devenu le Parti démocrate dans les années 1990-2010, avait au fond des intérêts communs avec la politique de la droite marchande au pouvoir sous Reagan et Bush. Un autre facteur politico-idéologique qui a joué un rôle essentiel aux États-Unis comme en Europe et dans le reste du monde au cours de cette période est évidemment la chute de l'Union soviétique en 1990-1991. Cela validait d'une certaine façon la stratégie reaganienne basée sur la restauration de la puissance états-unienne et du modèle capitaliste. L'effondrement du contre-modèle communiste a sans nul doute puissamment contribué à l'émergence, à partir du début des années 1990, d'une nouvelle phase de foi, parfois sans limite dans l'autorégulation du système de marché et de propriété privée. Cela explique aussi en partie pourquoi les démocrates états-uniens, comme les socialistes, travaillistes et sociodémocrates européens, ont, dans une large mesure, cessé de penser l'encastrement et le dépassement du capitalisme au cours de la période 1990-2010. Comme toujours, il serait cependant erroné de relire ces trajectoires de façon déterministe. Les logiques intellectuelles et idéologiques de long terme sont importantes, mais il existe également de multiples points de bifurcation qui auraient pu donner lieu à des trajectoires différentes. Par exemple, la révolte fiscale qui éclate en 1978 en Californie et qui est d'une certaine façon prémonitoire du succès de Reagan au niveau fédéral quelques années plus tard, a pour origine une très forte inflation des prix immobiliers californiens pendant les années 1970, avec pour conséquence des augmentations considérables et largement imprévues de property tax. Ces hausses, souvent brutales, posaient de nombreux problèmes, dans la mesure où elles n'avaient pas été annoncées et assumées comme telles, et où une augmentation des prix immobiliers n'implique pas forcément une augmentation correspondante des revenus nécessaires pour payer la taxe en question. Ces hausses furent ressenties comme d'autant plus injustes que la property tax est un impôt proportionnel qui frappe toutes les propriétés immobilières au même taux, sans prise en compte des actifs financiers et des dettes, si bien que ces hausses peuvent concerner des personnes endettées disposant de revenus minuscules. Ce mécontentement fut habilement exploité par des militants conservateurs anti-impôts et déboucha, en juin 1978, sur un référendum inscrivant dans la Constitution un plafonnement permanent de la property tax à un maximum égal à 1% de la valeur des propriétés, la fameuse Proposition 13. Cette disposition, toujours en vigueur aujourd'hui, a eu pour conséquence une limitation des ressources disponibles pour les écoles et l'irruption de crises budgétaires à répétition en Californie. Outre son importance dans la montée du reaganisme, cet épisode est intéressant car il illustre le croisement entre des logiques événementielles de très court terme, la hausse des prix immobiliers dans les années 1970, une mobilisation réussie pour un référendum anti-impôts, et des insuffisances intellectuelles et idéologiques de plus long terme, et en l'occurrence, une absence de réflexion et de réforme de fond concernant la transformation de la property tax en un véritable impôt progressif sur la propriété immobilière et financière nette de dette. De même que pour l'impôt progressif sur le revenu, il est important de se donner la possibilité de demander des taux d'imposition différents à des personnes dont le patrimoine net est de 10 000 $, 100 000 $, 1 million ou 10 millions de dollars. Toutes les enquêtes montrent que les citoyens sont favorables à une telle progressivité. Il est également essentiel d'indexer les tranches et les taux d'un impôt sur la propriété sur l'évolution du prix des actifs, afin d'éviter que l'impôt augmente mécaniquement avec la hausse de ces derniers, sans que cela ait été préalablement débattu, justifié et arbitré. Dans le cas de la révolte de 1978, le gâchis est d'autant plus considérable que le référendum a de facto également mis fin au mécanisme de partage des recettes de property tax entre districts scolaires riches et pauvres que la Cour suprême californienne avait validé en 1971 et 1976, arrêt dit Serrano, et qui, pour leur part, étaient populaires au sein de l'opinion de l'époque. Plusieurs événements et évolutions récents suggèrent que la phase ouverte avec l'élection de Reagan en 1980 est maintenant en passe d'être refermée. D'une part, la crise financière de 2008 a montré les excès de la dérégulation. D'autre part, la prise de conscience croissante à partir de la fin des années 2000 et du début des années 2010 de l'ampleur prise par la montée des inégalités et la stagnation des bas revenus depuis les années 1980 a entraîné une réévaluation graduelle du tournant réganien. Ces facteurs ont contribué à réorienter les débats politiques et économiques aux États-Unis, comme le montre par exemple le duel très serré entre Hillary Clinton et Bernie Sanders lors des primaires démocrates de 2016. Nous avons également déjà évoqué les débats en vue de l'élection présidentielle de 2020 avec diverses propositions de rétablissement de la progressivité de l'impôt sur le revenu et les successions et de création d'un impôt fédéral sur la fortune, notamment de la part de Sanders et Warren. Ces recettes pourraient notamment être mobilisées pour investir dans le système d'éducation et en particulier dans les universités publiques qui accusent un retard de financement considérable par comparaison aux meilleures universités privées. Des propositions ont également été faites pour partager le pouvoir et les droits de vote entre salariés et actionnaires au sein des conseils d'administration des entreprises privées états-uniennes, ou encore pour introduire un système public d'assurance maladie universelle, Medicare for All, comme cela est la norme en Europe, pour un coût total et des résultats en termes de santé publique nettement plus concluants. Il est beaucoup trop tôt pour dire ce qu'il adviendra de ces évolutions. Il me semble toutefois important de considérer que le retournement complet du clivage éducatif ne pourra être éclipsé en un jour et d'insister sur l'importance de la réforme du système éducatif. On ne peut que constater que le Parti démocrate est devenu le parti des plus hauts diplômés au sein d'un système hyper stratifié et inégalitaire. Or, les administrations démocrates n'ont jamais véritablement tenté de modifier cet état de fait, ni même de dire comment elles compteraient s'y prendre au cas où elles auraient une majorité pour cela. Une telle situation ne peut que contribuer à créer un climat de méfiance considérable entre les classes populaires et les élites démocrates hyper diplômées, les premières ayant souvent l'impression de ne plus vivre dans le même monde que les secondes. C'est sur ce sentiment de mépris social de type brahmanique que Trump a surfé pour asseoir sa popularité, sans pour autant proposer d'autres solutions tangibles que la construction d'un mur avec le Mexique et la baisse de ses propres impôts, ce qui est un peu court. La réponse ne passe pas seulement par un rattrapage des investissements dans les universités publiques. Elle demande également un changement fondamental dans les procédures d'admission des universités privées et publiques et la mise en place de règles communes permettant d'augmenter réellement les chances d'accès des différents groupes. De façon générale, en l'absence de mesures fortes et lisibles, on voit mal ce qui pourrait permettre une véritable remobilisation de l'électorat populaire qui a toujours été relativement faible aux États-Unis.